Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Impact, le podcast qui parle tennis pour débriefer l'actu de la petite balle jaune. Sur Eurosport.fr, après Roland-Garros, nous prenons tranquillement la direction de Wimbledon. Je suis Sébastien Petit et cette semaine, je retrouve notre consultant Arnaud Di Pasquale et un journaliste de notre rédaction, Laurent Verne. Bonjour à tous les deux.
Salut.
Salut Arnaud, salut Seb.
Cette semaine, direction Halle et Londres pour suivre les deux gros rendez-vous sur gazon à 2 semaines du début de Wimbledon. Deux tournois que vous pourrez suivre d'ailleurs sur Eurosport avec du beau monde, aussi bien en Allemagne qu'en Angleterre. Medvedev, Tsitsipas, Sinner, Zverev, Ruud pour le premier, Fritz, Murray, Tiafoe ou encore Alcaraz pour le second. Alcaraz, justement, c'est la première fois que nous le verrons sur un tournoi sur herbe autre qu'à Wimbledon. Faut-il s'attendre à le voir aussi à l'aise que sur les autres surfaces? Ce sera notre question de la semaine. Autre joueur que nous suivrons, Frances Tiafoe, qui vient d'entrer pour la première fois dans le top 10 mondial cette semaine. Enfin, vous pourrez-t-on dire, parce qu'il sera l'objet de notre stat jeu 7 et mat de la semaine. Mais notre émission ne serait pas complète sans l'œil de Deep, qui rendra hommage à un immense joueur du circuit. Lequel? Petit indice qui s'affiche en bas de votre écran, et pour ceux qui ne peuvent pas le voir, je dirais Sisseng. On reviendra là-dessus. Pour rappel, notre émission est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à noter et vous abonner pour recevoir l'émission directement sur votre smartphone. Et sachez également, des extraits vidéo des meilleurs moments de l'émission sont à retrouver sur notre application Eurosport. Les joueurs sont prêts. Alors, Deep Impact, c'est parti! Allez, une fois n'est pas coutume, on va commencer par rendre hommage à ce joueur qui t'a épaté, Arnaud, la semaine dernière. C'est l'heure de l'œil de Deep.
Alors, tu peux redonner l'indice avec l'accent, s'il te plaît, parce que ça
Sisseng
m'a... Sisseng.
Mais c'est quoi, c'est 6-1, c'est le score...
Sisseng.
J'ai rien compris, moi.
Ah, c'est ça que tu dis, 6-1.
Sisseng.
Ok, non, très bien. Alors, il m'a pas épaté uniquement la semaine dernière. Je précise, il m'a épaté
de nouveau.
Depuis quelques années, voilà. Il a 37 ans. Il est le plus grand passionné de ce sport. Il est doté d'un des plus beaux revers à une main du circuit. Et c'est le quatrième joueur en activité à atteindre la barre symbolique des 6-5 victoires, comme tu le dis, 600 donc, et pas 600. 600 victoires. Nadal, Djoko, Murray et lui.
Un beau Big Four, hein,
il bat Tsitsipas la semaine dernière pour sa 600e. Et oui, je parle de Richard Gasquet, le prodige, comme on l'a très, très, très longtemps appelé, dans le milieu. Voilà, tout simplement, je voulais rendre hommage à Richard pour sa 600e victoire sur le circuit. Et ce n'est pas terminé, puisqu'il n'a pas décidé de raccrocher, Richard. Il va s'accrocher jusqu'au bout, au contraire. Et c'est beau hein, justement, enfin, voilà, de voir à quel point il continue de prendre du plaisir, moi je trouve, sur le terrain, de s'éclater. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de plaisir, moi, qui se dégage de ce joueur. Plus le temps passe et plus on sent justement cette notion, je trouve, qui se dégage de plus en plus, et probablement beaucoup plus, évidemment, qu'en début de carrière, parce qu'il sait que c'est la fin et que c'est maintenant qu'il faut kiffer. Et il y a vraiment ce truc qui ressort énormément. Moi, je trouve que je prends beaucoup de plaisir à le suivre encore sur le circuit.
C'est vrai que c'est passion, hein, le mot qui le représente le mieux, parce que il parle de ça. C'est ça qui le fait tenir, sa passion du tennis. Donc 600 victoires en 979 matchs, en quasiment 20 ans de carrière, c'est assez énorme. Hein, ça fait un peu plus de 60% de réussite sur le circuit. À titre de comparaison, c'est le plus gros total pour un joueur français, devant Gaël Monfils et Gilles Simon, qui sont un peu plus de 500. Et je précise que Noah, lui, qui a joué quoi, 14, 15 ans, et il s'est arrêté à 482 victoires. Et Tsonga, lui, souvent freiné par des blessures, il faut le rappeler, est allé à 467. Donc ça montre, Laurent, que la longévité de Richard est assez exceptionnelle.
Ouais, elle est exceptionnelle. Après, je pense que il aurait peut-être préféré avoir un petit peu moins de victoires et des encore plus impactantes comme Tsonga, quoi. Je pense qu'il vaut mieux. Je préfère dans l'absolu la carrière de Joe qui a gagné moins de matchs. Tu l'as dit, la différence aussi, c'est que Richard, à 15 ans, il commence à gagner des matchs sur le circuit. Joe, il a été beaucoup, beaucoup blessé au début de sa carrière. Et quand il explose en 2007 et encore plus en 2008, il a déjà 22 ans. Il avait pris un peu de retard parce que à un moment donné, on savait même pas s'il allait pouvoir faire une carrière normale, si son corps allait le laisser tranquille. Après, c'est vrai que sa longévité est exceptionnelle. Alors, je ne compare absolument pas les palmarès, mais en termes de longévité, c'est comparable à un Nadal. Et c'est vrai que c'est assez fou de se dire que ces joueurs qu'on a vus arriver quand ils avaient 15 ans, 16 ans sur le circuit, plus de deux décennies après, ils sont encore là et qui ils prennent toujours autant de plaisir, en tout cas. Alors, pour Nadal, évidemment, en ce moment, ils n'en ont pas beaucoup. Mais c'est vrai que ça, c'est remarquable. Et en plus, ce qui est pas mal, je trouve, pour Gasquet, c'est que pendant 2-3 ans, c'était vraiment très compliqué parce qu'il avait quand même beaucoup de pépins physiques. Donc, on se demandait si ça allait pas être d'ailleurs des quatre, celui qui allait arrêter le premier ou dans les premiers parce que c'était vraiment la galère pour lui. Et c'est vrai que depuis la fin de l'année dernière, ça va beaucoup mieux. Alors évidemment, il a le physique de son âge, mais au moins, il peut enchaîner les tournois, il peut enchaîner les matchs. Il faut rappeler qu'il a quand même gagné un tournoi en début de saison aussi, quand même, à 36 piges. C'était d'une certaine manière inespéré. En plus, il bat quand même quelqu'un comme Cameron Norrie, qui n'est pas un mauvais joueur. La saison sur Terre a été dure pour lui. Je pense que c'est plus fait pour lui, la Terre battue. Là, c'est vraiment trop exigeant. Le gazon, il aime beaucoup ça, on le sait. Ça a peut-être toujours été d'ailleurs sa meilleure surface. Il a quand même fait deux demi-finales à Wimbledon, il faut le rappeler, hein. Et c'est probablement là qu'il a signé les deux plus belles victoires de sa carrière, deux quarts de finale contre Roddick en 2007. Ça, c'était quand même extraordinaire, après avoir été 2-7-0. Et puis, un autre quart contre Stan Wawrinka, qui venait quand même de gagner Roland-Garros, qui était vraiment un très grand champion. Cette victoire en 5-7, je crois que c'était 11-9 au 5e. Donc ça, peut-être ses deux plus beaux succès avec celui contre David Ferrer à l'US Open. Le problème, c'est que voilà, il a un peu reculé au classement, Richard. Évidemment, il est plus tête de série. Donc là, on le voit, que ce soit sur des 250 ou des 500, il est contraint de se coltiner des Tsitsipas, des Sinner dès le premier tour. Donc c'est pas évident. Et à Wimbledon, j'espère qu'il aura un tirage assez clément et qui pourra passer quelques tours, prendre le rythme, et pourquoi pas une seconde semaine s'il a un tableau qui n'est pas trop handicapant pour lui. C'est pas impossible, parce que vraiment, avec la main qu'il a, avec les sollicitations physiques moins exigeantes quand même que ce qu'on peut avoir sur terre battue, c'est un joueur qui peut être dangereux sur cette surface, et notamment dans ce tournoi où il a quand même très souvent très très bien joué.
On rappelle que ça fait aussi 18 ans qu'il est dans le top 100 mondial, sans faillir. Hein. Il est rentré le 18 avril 2005. Et il est entré dans le top 10 en 2007 à la 7e place mondiale. Il avait 21 ans, suite à la demi-finale dont tu parlais, Laurent, face à Roddick.
C'est son meilleur classement, d'ailleurs.
Ouais. Et quelque part, le voir décrocher sa 600e victoire sur gazon, c'est un joli clin d'œil à sa carrière. Hein.
Bah, ouais, non, mais Laurent l'a dit, hein, c'est probablement sa meilleure surface. C'est là, en tout cas, qu'il a le mieux joué, qu'il a ses plus grosses perfs, entre guillemets, et en effet, c'est vrai qu'à chaque fois, il est quand même très attendu hein, sur cette surface. Il a montré par le passé qu'il était excellent. C'est vrai que ouais, il a une très très bonne main, son jeu s'adapte très bien à cette surface, et ouais, c'est un joli clin d'œil. Et pourquoi pas, en effet, ouais, je rejoins Laurent. Bah, alors, une seconde semaine, comme ça, c'est difficile de se projeter. On a envie d'y croire, et pourquoi pas. En tout cas, s'il y a un grand chelem sur lequel ça peut peut-être encore se produire, en effet, c'est probablement à Wimbledon. Donc, on va le suivre de près, et ça dépendra évidemment beaucoup du tirage au sort du tableau.
À son âge, il y en a qui arrivent à flamber aussi. Donc, pourquoi pas Richard? On ne sait jamais.
Ouais, non, mais après, moi, ce qu'il faut mettre en avant là, moi, ce que je voulais dire, c'était cette espèce de passion qui se dégage, ce plaisir qu'il arrive à prendre encore à 37 ans, cette longévité, le fait de se dire en effet qu'il est arrivé sur le circuit à 15 ans, cette hyper précocité, et d'être encore là, encore aujourd'hui, avec cette flamme, bah, c'est génial, en fait. Voilà, c'est tout. En fait, moi, c'est surtout ce qui me, ouais, c'est ce qui me rend vraiment admiratif de ce joueur, parce qu'il y a bien des fois où il aurait pu baisser la garde, baisser les bras. Abandonner, j'exagère peut-être un peu, mais c'est pas toujours simple, on se rend pas compte, mais jouer comme ça plus de 20 ans sur le circuit, Il y a des hauts, mais il y a beaucoup de bas aussi. Il a tenu toujours. Et là, ce qu'il maintient justement, c'est ouais, le plaisir qu'il arrive à prendre, c'est ce qu'on dit là. Et c'est génial. Et il l'a toujours eu en fait. Et on ne mesure pas à quel point il est passionné. C'est ça qui est sympa et qui est génial. Et ça, depuis le début, il en bouffe des matchs. Quand il est sur les tournois, il regarde tous les matchs, il adore ça, il suit tous les résultats, il est partout, il sait tout ce qui se passe. C'est génial. Voilà, il les connaît tous, les nouveaux, les anciens. Enfin, et ça, depuis le début, depuis vraiment son arrivée sur le circuit, quand il était même tout jeune.
Il fera un super consultant alors quand il aura décidé d'arrêter.
Ça, c'est pas à moi de le dire, mais peut-être que Laurent peut, peut répondre à cette question.
Pourquoi moi? Ah non, bah, d'abord il fera ce qu'il voudra. Je pense que s'il a envie d'être consultant, je ne doute pas qu'il aura des portes qui s'ouvriront. Mais c'est d'ailleurs une bonne question parce que il a pas souvent parlé de l'après, peut-être parce qu'il se projetait pas encore. Et voilà, que fera Richard Gasquet après, ce qui restera dans le milieu du tennis?
Il a parlé un peu de coaching, non, Laurent, par
ouais, mais oui,
émission
ouais.
D'accompagnement.
Ouais. Mais c'était pas très. J'ai l'impression que c'était pas très précis encore dans sa tête. Et d'ailleurs, il n'y a aucune raison de se précipiter. Hein. D'abord, parce qu'il a peut-être continué à jouer pendant quelques temps. On n'en sait rien. S'il continue d'être à peu près tranquille physiquement, alors que je me souviens que c'est vrai que l'année dernière, on avait l'impression qu'il avait un discours de presque de dernière année. Ça sentait la fin. Et puis, comme il arrive paradoxalement à enchaîner beaucoup plus les matchs et les tournois qu'il ne pouvait le faire ces deux, trois dernières années, bah peut-être que ça lui trotte dans la tête de continuer. Je pense qu'il voudra aussi choisir sa sortie. Est-ce que ce sera Roland? Est-ce que ce sera autre part? Je sais pas, mais je pense qu'il réfléchit quand même à ça. Et pour l'après, c'est un peu comme Gilles Simon, hein, qui avait des idées très claires, je trouve, sur ce qu'il voulait pas faire. Notamment, il voulait pas être consultant. Alors, après, on verra. Il y a que les idiots qui changent pas d'avis. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Gilles Simon, on l'a vu beaucoup échanger sur les réseaux sociaux, sur Twitter, avec les gens. Pendant Roland, l'a proposé des petites analyses à chaud ou à froid. Donc, je me dis que finalement, pas impossible qu'il revienne sur ce qu'il avait dit. Ce serait pas le premier. Hein. Mais pour Richard, on verra. Et en attendant, il est encore joueur. Donc, je pense que ce qu'il a fait contre Tsitsipas, même si c'était pas du grand Tsitsipas, et on l'a encore vu cette semaine à Halleux, il est quand même passé tout près de la défaite au premier tour contre un autre Français, Grégoire Barrère. Enfin, ça reste quand même un top player. Et c'est le genre de victoire qui te donne forcément envie quand même de continuer encore un petit peu. Donc, je suis pas sûr que ce soit la dernière saison de Richard Gasquet et on verra où il s'arrête. Mais pour l'instant, il est là, il est encore bien là.
Il a mis en tout cas 2 ans pour exploser au plus haut niveau. Il y en a un autre pour qui ça a pris un peu plus de temps. C'est Francis Tiafoe. On en parle dans notre stat Jeu 7 Mat. Bon, vous le savez, chaque semaine, notre partenaire Jeu 7 Mat nous dégote un chiffre marquant. Et cette semaine, zoom sur Francis Tiafoe, qui vient d'entrer pour la première fois de sa carrière dans le top 10 mondial. L'Américain a eu besoin de 6 ans, 8 mois et 9 jours, pour être très précis, pour le faire. Entre son entrée dans le top 100 et son accession dans le top 10, hein, je précise, dans l'histoire du classement ATP, seuls 13 joueurs ont eu besoin de plus de temps que l'Américain, et celui qui tient l'intervalle, celui qui a mis le plus de temps à le faire, c'est Fabio Fognini, qui lui a mis plus de 11 ans. Alors, Tiafoe, c'est une petite consécration pour ce joueur, mais est-ce que c'est une surprise pour vous?
Pas au vu de ce qu'il produit depuis maintenant une grosse année. Hein. Moi, je m'attendais même peut-être à le voir intégrer le top 10 un petit peu plus tôt après sa demi-finale à l'US Open l'année dernière. Parce que voilà, il y avait la saison indoor derrière, il y avait l'Open d'Australie, il y avait les Masters 1000 sur dur où il est quand même très à l'aise. Donc, je m'attendais presque à le voir dans les 10 au printemps. Donc, il a encore pris un petit peu son temps, mais c'est quand même dans la continuité globalement de ce qu'il a fait depuis un peu plus d'un an. Donc, maintenant, l'enjeu pour lui, c'est toujours une consécration pour n'importe quel joueur. Et ils aiment bien, même s'ils disent souvent que le classement, ils s'en occupent pas trop. Ils s'en occupent pas trop quand ils sont comme Nadal, Djokovic ou Federer installés dans le top 10 pendant 10, 15 ou 20 ans. Mais voilà, les paliers comme ça, le top 100 évidemment, le top 50, le top 20, le top 10, et le top 10, c'est quand même la référence. Donc, je pense que c'est très important. Et maintenant, qui est compliqué, c'est de s'ancrer durablement sur ces hauteurs-là. Il a largement les moyens de le faire, mais là, déjà, il aura un défi. C'est que l'US Open, il a fait 8e à Wimbledon l'année dernière, il a fait demi, évidemment, à Flushing. Donc, il a des gros points à défendre. Donc, s'il est encore dans le top 10 à la fin de l'été, ce sera un signe important qu'il est peut-être capable de s'ancrer de manière durable à ce niveau-là. Un petit peu comme un garçon comme Taylor Fritz l'a fait, hein, qui est maintenant dans le top 10 depuis de longs mois. Tiafoe, c'est un joueur qui est un petit peu, peut-être un tout petit peu moins constant, même s'il a beaucoup progressé de là-dessus. Un joueur qui est très dangereux. Donc non, je ne suis pas surpris. Tu m'aurais dit ça il y a 2 ou 3 ans, est-ce qu'on verra Frances Tiafoe dans le top 10? Je t'aurais dit, bah écoute, il va d'abord falloir qu'il cesse d'être un joueur de coups et qu'il gagne en régularité sur la durée d'une année, puis sur plusieurs années. Donc c'est quand même pas évident. Mais en revanche, sur ce qu'il nous a montré, allez, on va dire depuis un peu plus d'une année, non, je ne suis pas surpris et c'est une forme de consécration, on va dire, logique.
Tu le voyais à l'ICO, toi, Arnaud?
Alors écoute, je suis très embêté parce que je pense exactement, mais exactement comme Laurent. C'est très, très embêtant là. Là, c'est très gênant. Non, non, mais vraiment, je te rejoins, mais sur toute la ligne. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 ans, honnêtement, non, mais alors pas du tout parce que c'était exactement un genre de coup. Ça partait dans tous les sens parfois. Il y avait toujours ce feu, hein, cette explosivité, ce côté très spectaculaire. C'est pour ça qu'on l'a tout de suite d'ailleurs beaucoup aimé. Mais. En revanche, ça manquait cruellement de constance. Et tu te disais, c'est pas possible. Et donc, en revanche, après quelques victoires, et il y a des joueurs, tu parles justement d'accéder à certains classements, donc au top 10, là en l'occurrence, au bout de tant d'années. Bah, tu vois, à un moment, c'est les trajectoires qui sont un peu différentes en fonction de ton jeu, de ta maturité. Ton jeu, il prend en maturité au fil tu vois, des ans, des années. Et là, lui, il a. Ouais, besoin de plus de temps que d'autres parce que son jeu le lui demande.
Il y a un jeu particulier quand même,
bah oui,
avec une préparation particulière en coup droit. Hein.
Ouais, mais au-delà des préparations, c'est plus sa façon de faire. En fait, je pense qu'il est arrivé. Je pense que c'est des joueurs qui, à un moment donné, peuvent imaginer pouvoir, en jouant bien chez les jeunes, tu vois, tu débarques et t'arrives, tu penses que grâce à ton physique, t'es fulgurante, tu vas pouvoir en fait exploser tout le monde. Sauf qu'à la fin, bah, en face, tu as des rocks, tu as des mecs plus solides physiquement, mentalement. Et à tous les niveaux, donc tu es obligé d'aller puiser, enfin en tout cas d'aller comment dire construire encore d'autres armes, tu vois, tu dois en développer d'autres, et c'est ce qu'il arrive à faire là, à comprendre que justement il faut construire en fait les points, tu peux pas les faire comme ça et sur toutes les surfaces. On sait qu'il a gagné aussi à Houston, alors ok, c'est une terre américaine, mais c'est quand même une terre battue, donc c'est quand même un indicateur important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas, voilà, tu peux pas jouer sur cette surface en faisant juste des coups, c'est pas possible. Et même si les adversaires qu'il a joués, qu'il a battus sont pas des monstres, il faut aller gagner des tournois comme ça sur des surfaces assez lentes qui demandent quand même beaucoup d'énergie et à tous les niveaux et surtout dans la tronche, surtout pour un joueur comme lui, hein, qui aime jouer sur des filières très courtes. Mais après, là sur gazon, bah ouais, il commence très bien, hein, forcément, cette tournée. Et puis, c'est plutôt de bon augure là, pour la suite et pour Wimbledon. Mais non, si tu m'avais dit au tout début, top 10, Tiafoe, non, non.
Il faut rappeler que quand même, c'est un joueur qui, à 20 ans, était en quart de finale de l'Open d'Australie. Hein. C'était en 2019, je crois.
Ouais, il mais c'était
contre Nadal.
Là, donc, c'était là, quoi. Ça donnait vraiment le jour.
Mais c'était une promesse. On s'était dit, ce gars-là, il a 20 ans, il est en quart de Grand Chelem. En plus, c'était quand même un moment où le tennis américain était vraiment au creux de la vague, hein. Même s'il y avait John Isner qui était là. Mais derrière, on ne voyait pas trop arriver les jeunes. Et lui, il était le premier à arriver comme ça, de cette génération, avec un vrai potentiel. Et puis derrière, ça s'est un petit peu tassé. Je pense aussi qu'il s'est peut-être un petit peu reposé sur ses qualités et peut-être changé un petit peu d'approche, de façon de travailler. Et maintenant, c'est devenu quand même un joueur. Tu parlais de son titre sur terre. Il devient potentiellement dangereux, potentiellement partout et tout le temps. Alors maintenant, ce qui lui manque cette année, c'est qu'après son été 2022, où il avait donc fait ce 8e à Wimbledon, qui aurait pu, et j'ai presque envie de dire qu'il aurait pu être mieux, parce qu'il faut se rappeler qu'il perd en 5-7, je crois 7-5 au cinquième contre David Goffin. C'était un match qui était jouable pour lui. Donc, il aurait pu aller en quart, peut-être plus loin. Et puis derrière, il fait cette demi à l'US Open. Cette année, c'est pas catastrophique, mais il a été un petit peu décevant. C'est-à-dire qu'il perd deux fois en 16e de finale, deux fois au troisième tour en Grand Chelem, contre Khachanov à l'Open d'Australie, puis contre Zverev là à Roland. Et à chaque fois, il nous laisse un peu sur notre faim parce que on se dit qu'il y avait peut-être un petit peu mieux à faire. Et quand on sait que Khachanov était en demi derrière à Melbourne, peut-être qu'il avait manqué un petit truc. Donc c'est ce qui lui manque cette année. Il a paradoxalement, je trouve, gagné en constance sur les tournois un petit peu moins importants. Mais en revanche, là, il lui manque peut-être, et je pense qu'il a très envie de ça, parce qu'il aime les grandes scènes, il aime les grands matchs, il aime jouer des grands joueurs, claquer un gros truc en grand chelem. Ça peut être lors de ce Wimbledon, parce qu'il a vraiment toutes les qualités pour très bien jouer sur gazon. Mais il faut qu'il arrive à faire ça là, dans les deux derniers tournois du grand chelem de la saison.
Et puis, c'est pas non plus peut-être une surprise, en raison aussi de la dynamique américaine. Tu disais que la vague était au plus bas il y a quelques années, mais il y a un autre joueur aussi dans le top 10 mondial, c'est Taylor Fritz, qui lui est entré dans le top 10 il n'y a pas si longtemps, il y a quoi, 6 mois, 7 mois peut-être, non, c'était fin de saison dernière.
Ah, l'année dernière, ouais, l'année dernière.
Donc quelque part, il y a aussi une sorte d'émulation qui est en train de se créer. Hein.
On en parle depuis un petit moment. Alors, c'est vrai que là, lui, à Roland, c'était un peu décevant. Ils ont disparu très rapidement, les Américains. Il n'y en avait pas en seconde semaine, mais ce n'est pas non plus leur meilleure surface.
C'est
là,
ça, ils sont vraiment moins bons sur terre. C'est
clair. Oui, clairement, clairement. Donc là, ils retrouvent un terrain de jeu qu'ils affectionnent beaucoup plus. Taylor Fritz, qui pourrait être même un peu plus haut au classement, parce qu'il était quand même.
Il était 5.
Ouais, puis il avait fait quart à Wimbledon l'année dernière. Il n'y avait pas les points. Pour les raisons qu'on sait, il n'y avait pas de points distribués. Donc finalement, c'est pas plus mal pour lui là, parce qu'il n'aura pas de points à défendre. Mais là, honnêtement, ce serait décevant pour le coup de ne pas retrouver ou un Fritz ou un Tiafoe, ou les deux, ou peut-être un autre. Il y a Korda qui revient là et qui pourrait rejouer pas mal. Et il a été freiné, lui, vraiment en pleine ascension. Après, on se souvient de sa victoire contre Medvedev à Melbourne en début d'année. Ensuite, il a été longtemps blessé. Donc là, ils retrouvent des surfaces sur lesquelles ils sont bien plus performants que la Terre. Donc, on peut pas parler vraiment de grosses déceptions pour Roland Garros. Mais on avait vu un garçon comme Taylor Fritz, par exemple, faire une demi à Monte Carlo. Donc, c'était
faire
pas
une bonne saison sur Terre pour lui.
Ouais, donc c'est en ce sens-là que c'était un petit peu décevant de les voir tous calés avant les huitièmes. Mais c'était pas non plus là qu'ils jouaient leur saison. Là, en revanche, on les attend très clairement.
C'est vrai. On les attendait quand même pas à Roland, voilà. On les attend beaucoup plus là, ouais, c'est clair. Ouais. Et puis il y a l'émulation, mais ça, moi je pense que ça joue beaucoup l'émulation, vraiment. C'est-à-dire que quand tu as un pote avec lequel tu grandis, et je pense que ceux qui en parlaient beaucoup et le mieux peut-être, c'était Grosjean Clément, ou en tout cas Arnaud Clément, il en a beaucoup parlé de ça, hein. De dire et de voir son pote Seb avec qui il a grandi.
Ils ont, ouais, et tu dis pourquoi pas
cellule,
moi, quoi.
Bien
ouais.
sûr, ils ont eu cette cellule qui a été créée pour eux entre Aix et Marseille. Et ils ont grandi ensemble, et qu'à un moment, tu en as un qui explose, et bah, tu as l'autre qui veut rejoindre, et qui rejoint un peu, et plutôt ça pousse en fait comme ça. Et c'est vrai que, franchement, pour être allé jusque dans le top 10, tous les deux d'ailleurs, et je me rappelle, tu vois, que Arnaud, avec l'esprit de compétition, bien, pas mal placé, loin de là, justement, ouais. C'était de se dire, attends, t'as Seb, il est top 20, Seb, il est top 15, Seb, il est top 10. J'en suis capable aussi. Il y avait ce truc quand même qui, et ça, je pense que ça joue aussi là chez les Américains. Enfin, en l'occurrence, Tiafoe avec Fritz. Forcément, quand tu as une locomotive comme ça que tu connais bien et comment dire, et c'est pas du tout.
Et que tu es persuadé de pas être plus mauvais que lui, quoi.
En fait, exact. Je pense qu'il y a vraiment ce truc parce que quand tu t'es entraîné beaucoup en plus avec ces joueurs, tu vois, ces personnes-là, et que tu les vois accéder à un niveau très élevé, tu dis ouais, là, tu te dis mais attends, ça va, j'en suis aussi capable. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Et d'ailleurs, Tiafoe, pour finir probablement sur lui, il s'est quand même beaucoup professionnalisé. Et ça, on l'a aussi beaucoup lu, il l'a beaucoup dit. Il faisait un peu n'importe quoi, si j'ai bien compris, à bien des égards. Et là, aujourd'hui, quand on entend un peu son staff en parler, il partait de loin. Et ça, c'est presque assez étonnant, je trouve d'ailleurs. Mais bon, je crois que c'est quand même une réalité. Et donc, bah, tu tiens mieux, tu enchaînes mieux les matchs. Physiquement, tu es plus dans le combat et tu te sens beaucoup plus armé, enfin, et tout ça joue dans la durée énormément.
Ouais, clairement.
Et dans l'émulation dont on parle, le prochain qui pourrait rentrer dans le top 10, c'est Tommy Paul. Je crois qu'il est de la même génération que Fritz et Tiafoe. Et lui, il est 15. Donc, il est à
Ouais, ils sont quand même deux dans le
500,
top 10,
400 points, non, un peu
trois dans le
plus.
top 15
Il est à
et
900 points du top 10. Ça se trouve, c'est lui le prochain.
c'est possible. Et puis encore une fois, je pense que quelqu'un comme Korda a vraiment un très très gros potentiel
Un peu
et
plus jeune.
s'il arrive à rester physiquement en bon état durablement, il n'en sera pas très loin dans les mois peut-être qui viennent ou les 2-3 ans, on va dire.
Lui a fait une entrée fracassante dans le top 10, c'était il y a un peu plus d'un an. Maintenant, il avait 18 ans. C'était à l'époque le plus jeune joueur à le faire depuis Rafael Nadal en 2005. Lui, c'est bien sûr Carlos Alcaraz, sur lequel nous allons nous pencher maintenant. Alors, peut-il briller sur gazon? C'est la question qui se pose pour Carlos Alcaraz, alors d'entamer le chemin qu'il mène vers Wimbledon. Pour la première fois de sa carrière, le jeune Espagnol va jouer un autre tournoi sur gazon que Wimbledon en foulant les courts du Queen's, non loin de là. Ce sera tête de série numéro 1. Alors, qu'attends-tu d'un Alcaraz sur gazon? Est-ce que tu le vois herbo-compatible? Utiliser un néologisme assez laid.
Alors je vois pas pourquoi il ne jouerait pas bien sur cette surface. Voilà, ça c'est le premier point. C'est un joueur hyper agressif qui adore aller à la volée. Il a, honnêtement, comme ça, sur le papier, je trouve qu'il a toutes les armes. Après, c'est accepter de jouer, accepter le gazon et les différences, justement, et ses particularités. Donc les rebonds, les filières plutôt assez courtes, essayer peut-être de slicer un petit peu plus. Dans la partie, dans le déplacement, il faut être très précis, vraiment très très précis, mais c'est quand même un joueur qui va très vite, donc il va pouvoir justement trouver les ressorts pour s'adapter à cette surface. Donc en fait, c'est plus une question de volonté, et quand on connaît sa volonté, je me dis que globalement, il va vouloir aussi prouver ou se prouver à lui, hein, sans vouloir prouver à qui que ce soit d'ailleurs, peut-être que c'est quelque chose d'assez perso, bah, qu'il est capable de très bien jouer sur cette surface. L'année dernière, il avait déjà fait huitième. Ah oui, c'est pas neutre, enfin c'est pas nul, enfin je veux dire, de faire quand même huitième de finale. Il a quand même gagné trois matchs, il fait quatrième tour, donc c'est pas rien. Il perd contre Sinner en quatre.
Pour
Donc
son deuxième tournoi sur gazon, c'est pas mal, effectivement.
ouais, mais donc c'est plus une question d'adaptation, d'acceptation, et tous ces trucs-là, quand j'en parle, en fait, je me dis que quand on connaît Alcaraz et sa faculté justement à faire face aux différents challenges. C'est fait pour lui, en fait, presque, de relever en fait ce challenge. C'est génial, je trouve. Et évidemment qu'il est étiqueté terre ou dur, d'ailleurs, peut-être terre au départ, mais terre et dur, hein, parce que moi, quand je vois son jeu et son agressivité, ah, il peut faire quand même des dégâts sur cette surface. Vraiment, il peut faire des dégâts. Et quand on sait que une des qualités premières aussi, c'est l'explosivité, parce que ça se joue quand même dans des filières évidemment quand même plus courtes que sur d'autres surfaces. Donc tu dois vraiment avoir du jus enchaîné, tac, 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 aller vite entre les frappes. Ah, il a tout ça quand même. Il a tout ça avec beaucoup de toucher, beaucoup de. Enfin, et donc avec cette volonté d'aller énormément vers l'avant et à la volée. Et puis il a une bonne qualité de passing de temps en temps aussi. Tiens, ça tombe bien parce que ça peut être nécessaire à certains endroits.
Goran Ivanisevic, ancien joueur et actuel coach de Novak Djokovic, lui le voit comme une menace sur gazon. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Laurent?
On parle de quoi? On parle du prochain Wimbledon? On parle des années à venir?
On va parler du prochain Wimbledon.
J'imagine, ouais. Il s'est montré prudent, Alcaraz, quand même, dans ses. C'est normal, d'ailleurs. Dans sa conférence de presse, là, d'avant rentrée sur Herbe. Lui, il a été très clair. Il a dit qu'il pensait qu'il avait beaucoup moins de chances de battre quelqu'un comme Djokovic, en tout cas sur gazon, que sur terre ou sur dur. Ce qui est une évidence, mais c'était presque une façon de prévenir et de dire, OK, les gars, bon, m'attendez peut-être pas là dès Wimbledon, mais le problème, c'est pas Novak Djokovic, parce que s'il se rencontre, ce sera en finale, a priori. Donc, s'il va jusqu'en finale de Wimbledon, je ne sais pas quelles seront ses chances de battre Novak Djokovic si c'est lui en face. On fait du tennis fiction, mais ça voudra dire qu'il joue pas mal quand même et qu'il s'est plutôt bien débrouillé pendant la quinzaine anglaise. Moi, je suis vraiment d'accord avec ce qu'a dit Arnaud. Je pense aussi que c'est aussi une question d'habitude et de feeling, le rapport au gazon. Le feeling, je pense qu'il l'a parce qu'il l'a montré l'année dernière. Il n'a pas de réticence, il fait pas un rejet du gazon comme a pu faire par exemple Daniil Medvedev très longtemps et même peut-être encore un petit peu aujourd'hui avec la terre battue. Maintenant, il a encore joué qu'une poignée de matchs finalement dans sa carrière sur gazon si tu regardes. Il joue quoi? 5-6, quelque chose comme ça, à peine. Donc,
Ouais, c'est ça, il doit être à 5 sur 5-2, 7 matchs, ouais, c'est ça.
donc
Enfin,
c'est
5 victoires, 2
c'est
défaites.
très 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 peu quand même par rapport à ce qu'il a pu produire sur quantitativement déjà sur les autres surfaces, soit en indoor, sur dur extérieur ou sur terre. Donc c'est encore un apprenti. Mais je trouve que ce qu'il a montré l'année dernière, tu l'as dit, Arnaud, il va en huitième, il bat quand même des très bons joueurs de gazon. Il avait battu Strouf au premier tour en 5-7, gros combat. Il avait battu Griegspoor, je crois, au deuxième tour, Oscar Otto au troisième. Donc, c'est des joueurs qui sont pas maladroits sur gazon. Donc, moi, j'avais trouvé ça plutôt très prometteur. Ce qui lui avait manqué, je trouve, l'année dernière contre Sinner, plus que la pseudo, à un moment donné, on parlait que le jeu de Sinner lui posait d'énormes problèmes. Moi, j'ai jamais cru à ça. Mais en revanche, il y avait un joueur qui était déjà plus rompu au jeu sur gazon. Je pense que, voilà, il était en presque totale découverte l'année dernière. C'est bien qu'il joue cette semaine. S'il peut gagner un ou deux matchs, ça ne pourra que lui faire du bien dans l'optique de Wimbledon. C'est pas tant le fait de gagner des matchs d'ailleurs que d'en jouer. Maintenant, après, j'ai un petit peu de mal à en faire un candidat au titre à Wimbledon comme on peut le faire partout ailleurs en Grand Chelem finalement, que ce soit à l'US, à Roland ou à Melbourne. C'est probablement un petit peu tôt. Maintenant, il apprend tellement vite, il avance tellement vite que je ne serais pas non plus surpris de le voir faire un très très bon tournoi. Et je rejoins vraiment Arnaud, il n'y a rien, il n'y a aucune contre-indication préalable à ce qu'il devienne un excellent joueur de gazon. En plus, aujourd'hui, quand même, même si le jeu sur herbe n'est pas le jeu sur dur, n'est pas le jeu sur terre et que ça fait appel à des qualités différentes, c'est pas non plus le Wimbledon des années 90 où, voilà, pour moi, quand Agassi gagne à Wimbledon en 92, c'est un exploit gigantesque parce que c'est pas du tout le même gazon. Donc, je pense que c'est un peu plus facile aujourd'hui d'être multi-surface. Il l'est déjà presque, hein, puisqu'il était en deuxième semaine l'année dernière à Wimbledon. Et je suis convaincu que dans les années à venir, il va s'éclater sur herbe et qu'il sera un joueur très dangereux. Maintenant, cette année, après, derrière Djokovic, il y a un archi favori et derrière, il y a 50 outsiders. Hein. De toute façon, les deux finalistes des deux dernières années, il y en a un, Berrettini, qui est à peine en état de jouer, l'autre, Kyrgios, qui a joué un match depuis 7 ou 8 mois,
Qui est forfait à l'E cette semaine en
qui est
plus.
forfait à l'E cette semaine. Les autres top players, le gazon, c'est pas leur meilleure surface, que ce soit Medvedev, que ce soit Tsitsipas. Derrière Vaki, on a Rublev. Bon, donc finalement, dans ce lot-là, Alcaraz, il n'est pas moins outsider que tous ces types-là. On est dans une configuration très particulière là avec les Djokovic qui paraît mais 10 crans au-dessus du reste de la mêlée. Lui, il fait partie du reste de la mêlée. Donc aller en huitième, en quart, en demi, voire en finale, ça me paraît pas impossible par rapport au contexte de ce tournoi.
En tout cas, son jeu semble correspondre au gazon. Il joue de façon agressive, il varie énormément. Le service volé lui fait pas peur, hein, on l'a vu aussi. Lui parlait de fatigue, au fait. Quand il se déplace sur gazon, il dit, pour moi, c'est assez fatigant. Il faut que je sois très précis. C'est quoi le plus dur pour lui, en fait? C'est les déplacements sur gazon?
Bah, non, mais c'est une question. Oui, évidemment, mais c'est une question d'habitude. En fait, quand tu arrives sur gazon, et ça, on en a peut-être même un peu parlé la semaine dernière déjà, il y a vraiment une vraie difficulté les premiers jours, mais ça dure pas longtemps. C'est-à-dire que parce que ce sont des efforts très différents, ça demande vraiment, c'est ce que je dis, beaucoup, beaucoup d'explosivité, parce que tu vas vite entre les frappes, peut-être plus que d'habitude. Tu dois être plus bas sur les jambes aussi. Donc, c'est vrai que tu fais un peu. Enfin, travailler des muscles que tu n'as pas l'habitude de faire travailler. Donc, tu as quelques courbatures les premiers jours, mais une fois que ça s'est intégré, je veux dire, c'est terminé. Donc là, il s'exprime après, je crois, un seul entraînement. Donc, c'est tout frais, c'est tout nouveau, c'est une question d'habitude. Ce rythme-là, il va le trouver, ce rythme, tu le trouves. Après, c'est vrai que ce sont des saisons qui sont très, très brèves, très, très courtes. Donc, il faut arriver suffisamment tôt quand même pour pouvoir s'acclimater, pour pouvoir un petit peu apprivoiser cette surface qui est pas. Enfin, en tout cas, c'est pas naturel pour tout le monde, tout simplement. Mais comme la Terre ne l'est pas pour d'autres, c'est exactement pareil. Voilà, je crois qu'on est d'accord pour dire qu'il n'y a aucune contre-indication quand on voit son tennis qu'il est capable de développer, de varier, d'attaquer, de remettre, de défendre, de retourner aussi. Il y a tout, en fait. Pour moi, il a toutes les armes, toutes. Donc, pareil, peut-être pas cette année, même si, attention, parce qu'il sera peu attendu. Et que ce n'est pas une position qui est dégueulasse pour lui, au contraire, voilà, c'est pas mal. Mais en revanche, plus les années vont passer, et plus il le sera. Hein. Moi, je suis convaincu, fort et attendu.
Non, non, mais je suis d'accord, oui, c'est ce qu'on disait. Il y a tout pour qu'il devienne un très, très, très bon joueur de gazon. Maintenant, voilà, encore une fois, on parle d'un joueur qui a joué 5-6 matchs sur herbe dans sa vie. Donc, bon, ça prend aussi un petit peu de temps. Mais comme je disais tout à l'heure, il a une telle faculté d'apprentissage, d'adaptation, et tout va tellement vite avec lui que je vois pas pourquoi ça irait pas aussi très vite dans sa façon d'appréhender cette surface-là. Et c'est encore un projet, c'est encore un chantier en construction sur Herbe. Mais je pense que voilà, la construction va très très vite monter et ça va très vite être un produit fini, à mon avis.
Je crois que le grand chelem, c'est le grand chelem, c'est différent. Ces joueurs-là sont capables de switcher, je trouve, dans le bon sens du terme, vers une concentration extrême, vers une détermination enfin, qui encore plus forte sur les grands chelems. Et même s'il est tout jeune, Alcaraz, il a déjà ce truc, je crois. Donc, dans son esprit, évidemment, que le but est d'aller remporter ce tournoi, comme tous les tournois qu'il joue, hein, il le répète. Mais ça reste une préparation, et encore plus sur gazon. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pas comme si, voilà, là, il n'y a qu'un tournoi avant. C'est s'entraîner, c'est faire quelques matchs qui vont lui permettre de se rassurer, de se dire, voilà, je serai prêt pour Wimbledon. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais peut-être que je me trompe un peu, hein. Et en essayant de tout donner, mais ça remettra rien, rien, rien en cause ou en question si il perd prématurément. Voilà.
Et écoutez, ce sera le mot de la fin. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pourrez suivre les tournois du Queens et de Halle tous les jours sur Eurosport avec donc de très beaux plateaux, vous l'avez compris. N'hésitez pas à nous laisser des messages et à aller taper la balle, hein, ça fait du bien. Messieurs, reposez-vous bien et à la semaine prochaine.
Salut, salut Seb, salut Arnaud.
Ciao. À bientôt, salut.
Salut à tous.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.